RMC, face aux grandes gueules.
Et on a deux toubibs côte à côte, puisqu'on accueille Philippe Juvin, médecin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour, docteur Juvin.
Bonjour. On va parler de la fin de vie. Pas de la loi qui va arriver à l'Assemblée nationale, mais des LR. Est-ce que les LR sont pas en fin de vie ?
Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons ni incarnation aujourd'hui, ni ligne politique claire. Donc il y a quand même beaucoup de travail. En fait, si l'élection présidentielle arrive
pas
à la
semaine prochaine...
Non, il n'y a pas d'incarnation. Si l'élection présidentielle arrivait la semaine prochaine, il est probable qu'on ferait 4 et 8%. Donc il y a beaucoup de travail.
Mais est-ce que vous n'avez pas aggravé votre cas en voulant à tout prix faire passer ce budget qui est quand même un budget négocié avec les socialistes par Sébastien Lecornu? Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui jugent ça incompréhensible.
Ouais, enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui racontent n'importe quoi. D'abord, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc il faut par définition, si vous voulez un budget, arriver à des compromis. Le deuxième point, c'est que la vraie réalité des choses, mais personne ne regarde le texte, c'est toujours pareil, on fait du commentaire superficiel, c'est que tout le monde a eu quelques petites victoires. Les socialistes ont eu des victoires, les LR ont eu des victoires. Par exemple, on a empêché l'augmentation de l'impôt sur le revenu qui était prévue dans le texte. On a permis faire en sorte que les PME ne soient pas taxées. Donc chacun a eu sa victoire, sauf que les socialistes, ils ont joué le jeu, ils ont fait du tambour, de la trompette, ils l'ont fait savoir.
Et nous, on a eu la victoire honteuse. Ils sont quand même vent debout sur cette surtaxe sur les grandes entreprises. Ils disent que c'est tellement un mauvais message envoyé au moment où la situation n'est pas très bonne, la croissance est très faible, le chômage redémarre, avec un déficit qui rêve le déficit à 5, personne n'y croit, tout le monde pense que ça sera plus. Enfin, sincèrement, je ne vois pas ce qu'il y a à droite dans ce budget. Je vois surtout des choses de gauche.
Non mais regardez, il y a pas eu d'augmentation d'impôt sur le revenu. Je veux dire. Soyez clairs. D'abord, c'est pas un bon budget. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de majorité. Donc, il fallait de toute façon trouver un accord. Ou alors, vous pouviez décider qu'il n'y avait pas de budget. Dans ces cas-là, vous savez ce qui serait passé. C'est que ceux qui auraient dit il ne faut pas qu'il y ait de budget auraient été les premiers à venir dire ah, c'est con, ils n'ont pas voté de budget. Vous savez, je connais les Français par cœur. Non, il y avait prévu une augmentation de l'impôt sur le revenu, on l'a buté.
Oui.
Il y avait une taxation sur les trésoreries des PME, nous l'avons empêché. Il y avait une remise en cause de ce qu'on appelle la loi Dutreil.
Pour vous, ça aurait été pire.
Ah non, mais pas pire, bien pire. Mais encore une fois, le sujet, c'est que comme il n'y a pas de majorité, vous avez dû en donner aux socialistes, vous avez dû en donner aux LR.
Mais il y a 18 députés LR qui ont sauvé Lecornu sur le budget de la Sécu, qui ont laissé passer la suspension de la réforme des retraites. Désolé, quand on est de droite, c'est incompréhensible.
C'est vrai, mais il y avait un accord qu'on considérait comme global sur le PLF, le budget de l'État et le PLFSS. C'est ça le sujet. Il n'y a pas de majorité, il faut bien le comprendre. Non mais vous savez, ce que disait Raymond Aron disait la politique, c'est entre le possible et le souhaitable. Voilà, le souhaitable, c'est effectivement qu'on n'ait pas eu tout ça. Le possible, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative, c'est le pire à l'exception de tous les autres. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Maintenant, je vous pose vraiment la question. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de budget. Je suis invité chez vous. Vous n'êtes pas en train de me dire... Quand même, vous vous rendez compte, la France, pas de budget, est-ce que c'est raisonnable? Mais évidemment, vous me diriez ça. Évidemment, tout le monde me dirait ça. Donc, qui a un peu de raison.
Non, parce que moi, j'attends enfin que les gens assument leurs convictions. Donc, il me semble pas que le budget en l'état, et notamment tout ce qu'a pu arracher le Parti Socialiste, soit en accord avec vos convictions. Ou alors, j'ai pas très bien compris ce que sont les Républicains. Et j'attends que, justement, vous nous fassiez assez confiance pour dire, écoutez, nous, on n'a pas été élus avec ce mandat. Nous, nos électeurs, ils attendent de nous qu'on baisse les impôts. Ils attendent de nous qu'on libéralise un peu plus le monde de l'entreprise. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, on n'a pas ce mandat-là.
Qu'est-ce que les socialistes ont obtenu sur le budget de l'État?
Alors, la suspension de la retraite,
sur le budget de l'État, qu'est-ce qu'ils ont obtenu?
Je ne sais pas.
Ah bon,
c'est
typiquement le débat,
c'est une impression. Vous essayez de me décrédibiliser, je suis désolée.
Non, pas du tout.
C'est
ce qu'on nous dit en général.
Non, mais parce que la retraite à elle seule, vous le savez, mange quand même une bonne partie du budget de l'État. D'accord. Donc, elle a été suspendue. Le peu de choses qu'avait fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'essayer de repousser de quelques... c'était la seule chose. Celle-là aussi, elle est perdue. Donc, quand vous consignez ça, excusez-moi, je ne crois pas que vous ayez le mandat pour faire ça. Donc, si vous étiez venu sur ce plateau, je pense que peut-être que j'aurais été la seule, mais je vous aurais dit, Monsieur Juvin, bravo. Bravo, parce que je crois qu'il y a une députée, je crois que c'est Alexandra Martin, qui n'a pas voté et si elle était à votre place, je lui aurais dit, madame, bravo. Bravo parce que vous avez la force de vos convictions. Donc on attend quand même des gens qui ont la force de leurs convictions et vous interrogerez les Français, ils vous diront tous qu'on a quand même l'impression que vous avez voulu sauver vos postes.
Non, alors écoutez, d'abord.
Vos sièges, non, pardon.
Je vais vous dire. Moi, je suis le seul député LR qui est élu au premier tour. Je suis pas en train de vous faire de la musculation, etc. Donc moi, c'est pas le sujet. J'ai fait une analyse, la plus froide possible, en me disant qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère pas de budget, avec toutes les conséquences, parce qu'il y a des conséquences, vous voyez. Oui. Qui disait, on s'assoit toujours à la table des conséquences. Il y a un moment où il faut payer la note. Et un budget qui n'est pas satisfaisant. Les retraites. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. C'est un vrai sujet. Les retraites, elles vont être suspendues à partir de novembre prochain. C'est ça la vérité. Hein. À partir de novembre prochain. Eh bien, 6 mois plus tard, il y a des élections présidentielles. Et effectivement, je suis persuadé que tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont en train de râler sur les plateaux reprendront, mettront fin à cette suspension puisqu'elle n'aura duré que 6 mois. Bien sûr, mais j'en suis persuadé.
Vas-y, c'est une question sur le budget.
Oui, une réflexion vas-y. Rapide. Parce que pour avoir dénoncé la loi de finances, si tu veux, à la fois, j'ai une position qui est un peu trouver son contraire, puisqu'à la fois je dis la loi de finances est mauvaise, et à la fois je dis il en fallait une. De la même façon, pour le budget, je pense qu'il en faut un. Pourquoi ? Notre pays est à l'arrêt, il n'y a plus d'investissement, si on n'a pas de budget, alors là, pour le coup, on recule. On n'est plus à l'arrêt, on recule. Plus personne n'investit, plus personne ne crée, les boîtes ferment, etc. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. C'est que si tu as besoin d'un prêt bancaire, si t'as pas de budget dans le pays, tu l'as pas.
Il a raison.
Et donc, il faut quand même qu'on sauve les meubles par cela. La loi de finances, elle a flingué un certain nombre de médecins, et je pense en particulier à mes consoeurs et confrères en secteur 3, qu'on a flingué et on a rendu obligatoire le conventionnement, je vais pas m'étendre là-dessus, mais donc il y a eu des très mauvaises choses là-dedans, mais pour autant, il fallait une loi de finances, parce que sans loi de finances, c'est pareil. Tout se casse la gueule, on peut pas avancer. Donc il faut quand même qu'on sorte de cette problématique. On sait que jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais dans ce pas grand-chose, si en plus on n'a pas de budget, alors là on est mort.
Alors la vraie question, jusqu'au présidentiel, moi la crainte de tout le monde...
Il ne va rien se passer.
En fait, il faut faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Moi je suis en train de travailler, je suis le rapporteur général du budget depuis 3 mois, 4 mois. Je veux arriver au mois de juillet avec un budget écrit. En disant au gouvernement, voilà les leçons que j'ai tirées des 3 ou 4 mois que j'ai passés, voilà ce qu'il faut faire. Et on va voir, et on fera quelque chose. C'est que dans un an, vous allez avoir des tas de candidats à la présidentielle, il y en a toute une liste.
Ça commence déjà.
Exactement, qui vont vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, ça tombe bien. En novembre prochain, moi, je mettrai sur la table un budget et je leur dirai, voilà ce qu'il faut faire, faisons-le dès le prochain budget.
Mais non.
Et ça sera une épreuve. Vous savez, c'est comme quand vous mettez dans le révélateur, vous mettez le truc dans le tube et ça devient bleu. Eh bien, on va vous ouvert, ou ce que vous voulez, ou rose. Eh bien, on mettra le révélateur et les gens qui sont candidats à l'élection présidentielle, je leur dirai, chiche, vous voulez le faire, vous voulez faire ça quand vous serez élu président de la République, on va le faire dès le novembre prochain.
Mais Philippe Juvin, vous avez commencé cet entretien en disant, quand Olivier vous a dit les LR sont en fin de vie, en disant on n'a pas d'incarnation. Mais vous avez deux personnalités de premier plan.
3 ou 4.
Laurent Wauquiez et. Oh. Non, mais prenons les deux. Oh. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.
C'est pas
d'incarnation.
Bertrand. Non, il y a du monde.
Michel Barnier, Pécresse. Mais il n'y a pas d'incarnation pour la présidentielle.
Non.
Il n'y en a pas un qui sort du lot.
Est-ce que vous avez un.
Qu'est-ce que vous avez. Non, mais c'est quand même
rude. Non, mais je ne suis pas en train de vous dire un scoop. Actuellement, on n'a pas d'incarnation. Mais d'ailleurs, c'est même plus le sujet. Parce que quand bien même aurions-nous une incarnation incontestée au sein des LR, celui-ci ferait dans une élection présidentielle entre 4 et 8, 10, s'il fait beau, et ça ne suffira toujours pas.
Donc le problème, c'est que vous n'avez pas d'espace politique. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le RN, qui reste très fort, et on commentait ce sondage qui montre que les sympathisants RN désormais préfèrent largement Bardella à Marine Le Pen, ça tombe bien, ça sera sans doute lui le candidat. Et puis, si vous prenez un candidat comme Édouard Philippe, je vois pas où est l'espace politique entre Bardella et Édouard Philippe.
Vous avez dit le bon mot. En fait, la question n'est pas tant la personnalité, mais il la faudra.
Oui, bien sûr.
Évidemment, dans la cinquième, il faut une incarnation. Mais c'est où est l'espace idéologique.
Oui.
Moi, je pense que l'espace idéologique, c'est de c'est d'avoir un discours qui est l'antithèse du discours actuel, qui est un discours de pessimiste où tout va mal.
Mais
je pense qu'en fait, on a, je vais pas vous dire tout va bien, mais je pense que, entre guillemets, pour simplifier, la France a d'incroyables talents et que nous pourrions faire une proposition à la France de dire oui, il y a des marges de manœuvre. Je dirais, on en a beaucoup sous le pied. Il y a des forces immenses qui n'ont pas encore été mobilisées. Faisons des lois Notre-Dame. Permettons aux entrepreneurs de se substituer à des services publics défaillants. Donnons aux jeunes des raisons de faire des enfants. Et on vous dit, il y a pas d'argent. En fait, si. La France dégouline d'argent.
Ah bon?
C'est 8 milliards d'euros d'épargne.
Mais l'argent est jeté par les fenêtres en permanence. Ah, on jette ça. L'argent par les fenêtres. Oui. Et donc, moi, je pense qu'il y a toutes les raisons d'avoir de l'espoir et de l'espérance et d'avoir un discours positif donc, à condition de changer les règles du jeu.
Pour voilà. ça, il faut, vous savez, Reagan disait, la politique, c'est l'art de donner envie.
Absolument.
Moi, je suis surpris un peu par votre discours défaitiste et surtout cette vision qui consiste à... Non, mais politiquement défaitiste, je veux dire. Et cette vision qui consiste à penser que somme toute, voilà, si on est promis à faire 6 à 8%, bah, on fera 6 à 8%. Comme si la dynamique n'existait pas en politique. Vous-même, vous avez fait, je m'en souviens, un assez beau parcours pendant la primaire. Personne ne vous connaissait avant cette primaire. Vous avez fait une bonne campagne pendant la primaire. On vous a remarqué pendant les débats. Et vous avez fait un score correct à la fin, primaire ou présidence du parti. Je sais plus exactement, mais il y a eu...
J'ai fait 10 fois plus que Bruno Le Maire.
Voilà. Non, mais voilà. Donc. C'est bien qu'en politique, il y a des dynamiques. Oui. Donc moi, ce que je pense, ce qu'on peut constater quand même à LR, franchement, est-ce qu'il n'y a pas une énorme surdité de la part des caciques de ce parti qui refusent obstinément de lâcher leur place, qui vont, mais jusqu'à la mort, en gardant leur mandat, qui veulent indéfiniment être reconduits, qui étouffent tous les jeunes qui essayent d'exister, qui à force se retrouvent entre vieux avec des idées de vieux, qui ne font aucun effort pour coller à cette époque. Enfin, je veux dire, il faut quand même ouvrir les yeux au bout d'un moment. Qui est le favori de cette élection présidentielle? C'est Bardella, dont on ne sait même pas s'il a déjà 30 ans et s'il les aura en 2027. Il faut peut-être ouvrir les yeux. Que font les gens toute la journée? Ils sont sur leur téléphone, ils regardent TikTok, Instagram, Twitter. Ils sont pas en train de lire le Figaro le matin et d'écouter un discours de René Coty le soir. Donc, il y a un moment donné, mais faites
Monsieur
un effort
Consigny.
Dans ce parti. Refaites votre logo, faites monter des jeunes, allez investissez les réseaux sociaux, travaillez à des idées nouvelles, allez voir ce qui se passe à l'étranger. On a l'impression que c'est devenu le Rotary Club, les Républicains.
Mais Monsieur Consigny,
ça fait longtemps que ça
vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit exactement cela il y a 5 minutes. Je vous ai dit qu'en fait, il faut rompre avec le discours pessimiste de dire tout va mal, la France est en déclin permanent. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Et je pense, parce que, et pas, c'est pas de la méthode couée, parce que je crois cela profondément. Je pense que nous avons des marges de manœuvre beaucoup plus grandes que nous le croyons. C'est une évidence. Maintenant, sur le fait que le parti est plein de vieux, enfin, d'abord, excusez-moi, la gauche avec Jack Lang qui a 85 et plus, je ne sais plus, qui est toujours là. Non, il est vrai.
Bah oui, mais
il est vrai que LFI. C'est vrai que LFI et le RN, objectivement, LFI et RN, sont les partis qui ont su aller chercher des jeunes.
Mais c'est plein de jeunes.
Et vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce que nous nous trompons au LR en pensant que les slogans d'il y a 20 ans, l'élection présidentielle de Sarko, gagner plus, travailler plus, gagner plus, c'est toujours le bon slogan. La société a évolué et les LR n'ont pas vu
mais
suffisamment la société évoluer.
Et
donc, c'est bien pour cela que je pense qu'effectivement, nous n'avons pas vu la société évoluer et rajeunir.
Non, mais
en fait, on est d'accord.
Il y a une responsabilité quand même que vous portez parce que vous êtes un parti républicain. Moi, je suis désolé, mais la date de l'élection présidentielle, elle est connue, elle ne bougera pas. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, les gens qui vont se présenter, qui vont concourir aux Jeux Olympiques. Ils ont candidaté il y a longtemps, ils sont passés par des filtres et ils ont été nommés pour représenter la France et ils y vont. Et là, on a l'impression qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, vous n'avez toujours pas choisi votre candidat, vous allez être obligé de repasser par ces conneries de primaire, etc., etc. Ce qui fait votre différence avec LFI et avec le RN, c'est qu'ils ont
c'est
nommé
la jeunesse.
Leur candidat. Non, ils ont nommé aussi. Leur candidat depuis longtemps et ils sont arrivés à n'avoir qu'un.
C'est la Parce que c'est la fameuse incarnation. Pourquoi? Il n'y a pas d'incarnation parce que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas suffisamment travaillé intellectuellement. C'est ça le vrai sujet. Nous pensons que la société, enfin, un certain nombre de gens pensent que la société d'aujourd'hui, c'est la société d'il y a 20 ans, alors qu'elle a changé. Regardez la question de la natalité. Enfin, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Pourquoi? C'est quand même assez évident. Parce que le logement est trop cher, parce que l'éducation est devenue de mauvaise qualité. Donc, c'est ça qu'on doit résoudre. Et donc, j'essaye de m'atteler à un discours positif en disant, en fait, on a réussi à faire Notre-Dame. En 5 ans, là où tout le monde disait ça allait prendre 15 ans.
Avec une loi particulière, une loi spéciale. Donc, ils ont supprimé beaucoup de choses.
Absolument. Ça signifie que c'est possible.
On va en continuer d'en discuter avec notre invité, Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Il est 11h15. Question à suivre de Joël Dagosséry, Charles Consigny et Jérôme Marty.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules vous accompagnent jusqu'à midi, 9h midi tous les jours, bien sûr. Là, nous sommes avec le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, le médecin Philippe Juvin, avec qui on parle. On a parlé du budget, on a parlé de l'avenir des Républicains. Joël Dagosséry, tu avais une question. Ben voilà.
Elle est dissipée.
Ma chère Joël.
Très bien dissipée.
J'ai des retraites.
N'écoutez pas consigné, parlez.
Donne des leçons, mais.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, monsieur Juvin?
C'était passionnant, je pense.
C'était passionnant. Oui, non, je voulais revenir sur votre proposition des logements gratuits, des logements HLM. Alors, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais je voulais savoir si vous regrettez cette proposition, si vraiment vous étiez sérieux.
Alors, de quoi s'agit-il?
Sur le fait d'offrir, de permettre aux locataires d'un logement HLM de devenir propriétaire de leur logement au bout d'un certain temps, enfin, de manière automatique, si j'ai bien compris.
Alors d'abord, je trouve que la vie politique meurt d'absence totale de propositions. Deuxièmement, c'est une proposition qui a été faite et appliquée par Madame Thatcher, il y a maintenant une trentaine d'années, il y a 40 ans, au Royaume-Uni. C'est quoi l'idée? C'est de dire, au fond, quand les gens sont dans des logements sociaux pendant un certain temps, une durée longue, qu'ils ont toujours respecté les règles de vie commune, ils n'occupent pas les halls, il n'y a pas d'insécurité, etc. Ils payent évidemment correctement leur loyer. À un moment, la société dit, vous pouvez devenir propriétaire de votre logement.
Donc on leur donne le logement?
Non, ils l'achètent à des prix dégradés.
Oui.
Et donc, la proposition, c'était, au bout de 5 ans, vous avez une décote de 25%, au bout de 10 ans, de 50%, etc. Et au bout de 20 ans, vous avez une décote de 90%, de 20 ans, de 90%.
Pourquoi c'est important d'avoir des propriétaires dans le logement social?
Parce que quand vous avez des propriétaires, c'est important pour deux choses. D'abord, je pense, moi, quand vous êtes propriétaire, vous respectez plus les biens. Et il y a une stabilité, puis il y a un ascenseur social, je suis désolé, mais quand vous avez la possibilité de laisser à vos enfants, par voie de transmission, un bien, vous vous inscrivez dans un long terme qui construit une société. Voilà, nous ne sommes pas des individus qui arrivons, qui naissons, qui mourront, et on laisse aucune trace. Et le deuxième point, c'est que, avec cela, l'idée était de se dire, les plus méritants, c'est-à-dire ceux en fait qui respectent simplement la loi et la manière de vivre ensemble, la loi, les bonnes mœurs, eh bien sont récompensés.
Il n'y a pas un défaut de turnover dans le logement social parce que on manque de logements.
C'est-à-dire
que les gens vont rester.
Alors d'ores et déjà, on a un problème de turnover, c'est une certitude. Mais encore une fois, moi, ce qui me rend très triste dans la société, c'est l'absence d'espérance des gens. Là, on donne on donne à des gens qui n'ont aucune chance de devenir propriétaires, aucune chance, quels que soient leurs efforts de travail sur une ou deux générations, la possibilité de devenir propriétaires. Et encore une fois, cette proposition qui a été faite par Thatcher, qui est quand même loin d'être une marxiste-léniniste, était dans cette idée que quand vous impliquez la responsabilité des gens, eh bien en fait, la société se porte bien.
Ouais.
Responsabilité, payez vos loyers, vos charges, et tenez-vous bien durant les 20 ans. Et au bout de 20 ans, vous êtes propriétaire à un prix très décoté. Moi, je crois que c'est très vertueux. Après, il faut voir qu'en plus, mais il y a une disposition, et je termine là-dessus. En fait, mais les gens ne le lisent pas, on vendait l'appartement, mais pas le sol. Il y a ce qu'on appelle une dissociation entre le sol et l'appartement.
Il y a une proposition là qui vient de l'Institut Jean Jaurès.
Montaigne.
Montaigne, pardon, Philippe Juvin. C'est de rendre public le prix réel des soins en France.
Mais c'est indispensable.
Et de dire que, par exemple, une jambe cassée, ça coûte tant de dizaines de milliers d'euros et autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Évidemment. Et puis, un lit d'hospitalisation, 1000, 2000, 5000 euros selon le type de soins. Évidemment, il faut que les gens sachent. Moi, je suis suivi par une maladie chronique. Et donc, je bénéficie d'injections tous les 3 mois. Je crois que le coût de l'injection, ça doit être 3000 euros. En fait, j'arrive avec ma carte à la pharmacie, je donne ça, on me donne l'injection. Je sais pas combien ça coûte. Et ça serait intéressant que je le sache. Donc oui, la question du vrai prix, mais vous savez, on le dit pour la santé parce que c'est une grande part de la dépense publique, mais il faudrait le dire pour tout.
L'éducation nationale.
L'éducation, le transport. Combien payez-vous réellement de votre billet de train ou de ticket de métro? Donc moi,
Une fois qu'on le sait. Est-ce qu'on doit payer plus cher aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait payer plus cher?
Est-ce
que l'État devrait moins rembourser?
Je crois déjà qu'il y a une vertu à la transparence des choses. Je vais vous faire je prends un exemple très médical que mon voisin va comprendre. quand vous tombez, quand une vieille dame tombe, c'est souvent une vieille dame, elle se casse le col du fémur. D'accord. Mm-hmm. Ce col du fémur, ça s'opère. Si vous l'opérez pas, bien vous mettez la dame dans un lit et elle meurt dans les 3 mois parce que c'est comme ça que mouraient nos grand-mères d'escarres, d'infections urinaires, d'embolies pulmonaires. On peut vous opérer et puis 48 heures plus tard, vous marchez. Eh bien, si on vous opère après 48 heures, il a été démontré qu'il y avait une surmortalité, une surmorbidité. Je connais des tas d'hôpitaux où on vous opère au bout de 5 ou 6 ou 7 jours. Moi, je sais où on m'opère en moins de 48 heures. Vous ne savez pas. Regardez, demain, on publie le délai entre la chute et le passage au bloc opératoire de tous les hôpitaux et cliniques de France. Ça ne coûte rien. Mais au moins, cette transparence démocratique fait que, qu'est-ce qui va se passer? Le directeur de la clinique où on opère en 5 jours va se débrouiller pour qu'on opère en 48 heures. Je crois que la transparence sur les résultats...
Alors, où il faut aller pour être opéré en 48 heures, ça peut nous
faire... Vous viendrez me voir. Vous savez, c'est un grand problème démocratique. Moi, je sais où me faire opérer.
Ouais.
Mais je sais surtout pas me faire.
Je pense pas.
Vous ne savez pas.
C'est
un scandale. C'est un scandale.
Je pense pas qu'il faut pas se faire opérer par Martis.
Il a écarquillé les yeux, comprenait pas.
Attendez, Jean Martis.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de cliniques où on opère en 5 jours parce que l'intérêt c'est de faire tourner les blocs quand même.
Il y a des hôpitaux où on opère en 5 jours.
Voilà.
Et une question, Jean Martis. Il le sait.
Jérôme. Non, moi je voudrais qu'on revienne sur l'aide à mourir surtout quoi parce que
ça va être le grand débat l'aide à mourir.
L'euthanasie. C'est le débat actuel. Moi, en tant que médecin, il y a des côtés qui me glacent. On en parlait tout à l'heure avant le débat. Il y a des côtés qui me glacent. Je sais très bien qu'on ne regarde...
Par exemple, donne-nous un exemple.
Je sais très bien qu'on ne regarde la santé dans ce pays que sous l'angle économique, qu'on a un court-termisme. J'ai bien peur que derrière une bonté d'âme, on aille aider un certain nombre de personnes à mourir sur un côté bassement économique.
Dans une France qui vieillit.
Et ça me fait peur. Moi, je fais du palliatif. Je lui disais la nuit dernière, après le match, je suis allé retirer le pacemaker d'un défunt qui était décédé pendant le match, dont la mort était malheureusement attendue en palliatif et en phase terminale. Mais donc, j'accompagne les gens dans le plus grand confort possible. Je comprends que dans certaines pathologies à l'issue inéluctable et dans des grandes souffrances, etc., on puisse bénéficier effectivement d'une euthanasie, je comprends, mais je me méfie de la spécificité franco-française, de la façon de regarder le soin uniquement sous l'angle économique et des dérives que cela peut engendrer avec cette autorisation.
Alors, Philippe Jure.
Écoutez, d'abord,
arrivé à l'Assemblée nationale.
Oui,
hein,
oui bien sûr. D'abord, moi, quand je rentre en blouse blanche dans une chambre, je ne veux pas que le patient ait à se poser la question de savoir pourquoi je rentre. Deuxièmement, des morts, j'en vois toutes les semaines à l'hôpital. Je suis dans un service d'urgence, on voit des morts toutes les semaines. Et ça fait 40 ans que je fais de la médecine et j'en ai vu beaucoup des morts. J'ai eu quelques demandes d'euthanasie, pas beaucoup, mais quelques-unes. Elles ont toutes disparu quand on apportait une réponse au patient ou à la famille. Toutes, et toutes.
Quelle réponse ?
Là, ça peut être une réponse liée à la douleur, liée aux nausées, liée à l'inconfort, liée à une question sociale, liée à une solitude, liée à une détresse psychologique. Il y a des tas de raisons. Vous n'avez jamais eu envie de mourir ? Moi, j'ai eu envie de mourir.
Moi, non.
On passe des épreuves, on a envie de mourir.
Envie de tuer des gens,
oui. À ce moment-là, il faut que quelqu'un vous tende la main. Or, ma crainte, si vous voulez, c'est que par défaut d'accès aux soins palliatifs, mais pas simplement aux soins, les gens demandent l'euthanasie. Vous vous rendez compte quand même ? Vous rendez compte que la loi prévoit qu'on puisse vous proposer l'euthanasie et la réaliser 48 heures après la demande. 48 heures après la demande. Alors que pour n'importe quel geste chirurgical un peu complexe, on vous demande de 7 ou 15 jours de réflexion.
Ouais.
Vous vous rendez compte qu'en France, pour avoir une consultation contre la douleur, il faut 2 à 7 mois selon l'endroit où vous êtes. Là, ça sera 48 heures. En fait,
pourquoi on n'arrive pas non plus à développer les soins palliatifs ? Parce que c'est souvent ça aussi. C'est que
bien sûr.
Faut 2 soins palliatifs.
Un Français sur 2 qui meurt aujourd'hui et qui a besoin de soins palliatifs n'a pas accès aux soins palliatifs. Voilà. Donc le vrai sujet, il est là. Or, est-ce qu'on bâtit une société qui règle le problème en disant, qui s'en débarrasse en disant, voilà, moi je vous donne la mort, c'est plus facile, ou est-ce une société qui prend des responsabilités très complexes pour aider les gens?
On peut très bien donner ce cadre et cette liberté, ce que François de Clauset appelait la dernière liberté.
On
n'est pas obligé d'y passer.
Mais est-ce que vous êtes toujours libre? Pardon.
Je m'explique,
je vous donne un exemple très, très parlant. Quand vous êtes grabataire et que vous êtes dans votre lit, plein de merde, de sueur, d'urine, la vôtre, et qu'il y a l'infirmière qui vient seulement une fois tous les 24 heures vous changer. Est-ce que vous croyez que votre fin de vie est plus difficile et douloureuse que si l'infirmière vous change immédiatement et qu'il y a quelqu'un pour vous dire qu'il vous aime? Évidemment, quand vous êtes pauvre et isolé, la fin de vie, elle est plus compliquée. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est une loi qui est imaginée par des gens plutôt riches, inquiets de la souffrance et de la déchéance, très entourés, et qui s'appliquera d'abord aux pauvres. D'ailleurs, dans certains pays, comme par hasard, L'euthanasie, ça s'applique d'abord aux personnes qui sont en situation de difficulté sociale ou handicapées. Je parlais à quelqu'un qui est très gravement handicapé, mais un handicap très grave dont on ne rêve, dont personne ici ne rêve, et qui me disait, mais tu sais, moi, tous les jours, la vie est difficile. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, en pratique, on va me dire, ben, on pose un flingue chargé sur ma table de nuit, et on vous dit, mais vous êtes libre de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Mais il y a bien un moment où, dans l'Oregon,
oui, mais cette personne aussi qui va voir sa santé se détériorer, elle peut peut-être à un moment décider de ne pas attendre la détérioration.
Quelle est la bonne réponse de la société?
Donc dans ces cas-là, il faut peut-être non pas l'aider à partir. Dans un premier temps, lui proposer un médecin, un psychologue.
C'est tout.
Et une fois que ça s'est passé, si elle décide de
d'en finir, c'est tout le sujet. Voilà, Or aujourd'hui, le système de santé est de telle manière qu'on ne propose pas aux gens. Et puis dernier point, le désir de mort, et ça, Jérôme le sait très bien, il est fluctuant.
Bien sûr.
Dans l'Oregon, il y a une disposition de suicide assisté où vous venez me voir, vous voulez mourir, je suis médecin, vous voyez un psychiatre. Nous, on n'a pas besoin de voir un psychiatre. Tout ça est très rapide. Il y a plein de filets de sécurité dans l'Oregon. Finalement, je vous fais une ordonnance. Vous allez à la pharmacie, vous achetez votre petite pilule pour mourir et vous rentrez chez vous. Eh bien, 40% des gens ont la pilule dans le tiroir et la prennent pas. Ça montre bien que le désir de mort est fluctuant. Mais vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand vous êtes un vieillard sous tutelle, vous n'avez pas le droit de signer un chèque. Eh bien, avec la loi, en revanche, vous pourrez demander l'euthanasie. Il n'y a aucun filet de sécurité. La société,
c'est ça qui est glaçant.
C'est quoi, on dit c'est une société de fraternité, mais la fraternité, c'est de donner. C'est de tendre la main aux gens. C'est pas de leur dire,
D'accord, monsieur Juvin. D'accord, c'est très bien. J'entends votre discours. Mais la société française et l'État, c'est aussi de donner aux gens beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'infirmières.
Mais
ça,
bien sûr.
Et ça, c'est l'échec de notre société.
Mais bien sûr.
On en parle souvent avec Jérôme. C'est l'échec des différents pouvoirs qui sont succédés aujourd'hui.
Vous avez devant vous le député de toute l'Assemblée nationale qui, depuis 2022, où je siège, à chaque semaine, je dis, il faut doubler le nombre de médecins en formation. Pas plus 15% avec leur numerus clausus à la doigt. Doubler le nombre d'infirmières, etc. Il faut créer, il faut en former beaucoup parce qu'on sait que les médecins, ben d'abord, ils travaillent moins que notre génération et puis ils ont des aspirations différentes. Il faut former beaucoup plus de monde, bien sûr. On a un système de santé.
On est conscient que dans certains cas, l'issue comme ça, elle est inéluctable. Le patient le sait, dans certaines pathologies neurologiques qui évoluent très vite, malheureusement, avec une dégradation très importante, les gens savent où ils vont. Et donc, il est normal que il puisse y avoir cette issue-là, mais dans la plupart des cas, et en faisant du palliatif chez des patients qui ont des durées comme ça de plusieurs mois,
plusieurs années parfois,
il faut qu'on ait les moyens de les prendre en charge. Est-ce que l'exemple qu'il donnait, je suis désolé, mais du patient qui se souille, qui perd sa dignité parce qu'il est souillé et qui reste souillé pendant 2 heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour arriver
plus vite. Lui, il a envie de mourir.
Ça provoque cette chose-là, donc il faut qu'on ait les personnels. Et pour avoir les personnels, il faut mettre de l'argent dans la santé. Or, le plan pour le palliatif, c'est 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est sur 1 milliard. On est à 10 fois moins.
Et donc, les mutuelles, et un mot sur les mutuelles. Elles sont très sympas, les mutuelles. Les mutuelles, elles sont là pour rembourser les soins. Aujourd'hui, elles font de la pub, je pense à la MGN, pour l'euthanasie. Et moi, je vais dire, et elles sont donc directement intéressées aux conséquences financières de cette affaire, hein, bien sûr. Moi, je dis aux mutuelles, écoutez, au lieu de promouvoir l'euthanasie, remboursez les couches. Vous voyez, les couches. Et les médicaments contre la constipation, parce que quand vous êtes au lit, vous êtes constipé, vous pouvez pas aller à la selle. Déjà qu'ils fassent leur job, et après ils viendront faire de la pub pour l'euthanasie.
Merci Philippe Juvin d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Merci d'avoir été avec nous.